Je peux plus dire que c'est ma première prédication à la Garenne parce qu'il y avait le premier culte, mais j'ai toujours un peu le trac et c'est toujours un grand privilège et une grosse responsabilité d'apporter la prédication. Mais avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à ouvrir votre Bible donc dans Jean chapitre 10, le verset 1er, et on va lire ensemble les 10 premiers versets. Jean 10, les versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. » Donc jusqu'ici, notre lecture dans l'infaillible parole de Dieu. Et si on voulait résumer l'enseignement de ce passage en une phrase, j'aime bien essayer de faire ça, je dirais, seul Jésus donne la vie à son peuple. Facile à se rappeler, hein. Seul Jésus donne la vie à son peuple. Et ce matin, je vous propose ensemble de réfléchir à trois questions concernant la vie que Jésus donne. Tout d'abord, à qui Jésus donne-t-il la vie? Ensuite, comment Jésus donne-t-il la vie? Et enfin, en quoi consiste cette vie que Jésus donne? Donc, ça sera facile à suivre, il y aura trois points correspondent à ces trois questions en suivant l'ordre du texte. Et tout d'abord, à qui Jésus donne-t-il la vie? Et on va se pencher un peu sur les versets 1 à 6. Donc dans ce chapitre 10 de son évangile, l'apôtre Jean a rassemblé des paroles de Jésus sur un thème. En gros, ça parle du berger et de brebis. Et c'est un thème riche qui va nous occuper ce matin et aussi les deux prochains dimanches. Donc, puisqu'il y aura deux autres messages à ce sujet, je ne vais pas tout expliquer ce matin. Mais pour bien comprendre ces paroles de Jésus, il faut remarquer un peu leur structure. Ce n'est pas le plus intéressant, mais on va commencer par ça. Dans les versets 1 à 6, Jésus dit une parabole. Une parabole, en bref, c'est une petite histoire qui a du sens. Mais comme on le voit au verset 6, l'auditoire de Jésus ne voit pas vraiment où il veut en venir. Et c'est pourquoi Jésus se met à expliquer les choses en développant trois aspects tour à tour. Donc il y a un premier aspect qu'il développe dans les versets 7 à 10, qu'on va étudier ce matin. Et il y a deux autres aspects dans les versets 11 à 13, puis 14 à 18, et ça sera pour dimanche prochain. Donc voilà pour la structure. Mais avant de se plonger dans ce thème, il faut encore regarder un tout petit peu le contexte. C'est important pour bien comprendre un texte, de regarder où il se trouve. Et se poser la question, à qui Jésus s'adresse-t-il? Qu'est-ce qui venait de se passer à l'époque? Alors si vous étiez là il y a deux semaines, que vous avez entendu le message sur le chapitre 9, vous savez que ce chapitre nous apprend comment Jésus a guéri un homme aveugle de naissance. Et que non seulement cet aveugle-né a été guéri de sa cécité physique, il pouvait de nouveau voir, mais il a aussi été guéri de sa cécité spirituelle, il pouvait voir avec les yeux de son cœur, de son âme. Et cet homme a soudain compris que Jésus est le Fils de Dieu. Il a cru en lui et il l'a adoré. Ce chapitre 9 nous montre aussi comment les chefs juifs, les autorités de la communauté d'Israël ont réagi face à ce miracle. Et qu'au lieu de se réjouir avec lui, de ce que cet homme était guéri, au lieu de croire avec lui que Jésus était le Messie, ils l'ont chassé, ils l'ont exclu de la synagogue. Et on voit à la fin du chapitre que ce sont à ces chefs juifs, il y a quelques pharisiens qui sont là, que Jésus parle. Il y a probablement d'autres personnes, peut-être l'aveugle-né, peut-être les disciples de Jésus. Donc nous arrivons maintenant à la parabole de Jésus. Et donc il y a un langage très imagé dans ces versets. On peut se demander pourquoi Jésus se met à parler maintenant de brebis, d'enclos, de bergers, de portes, de gardiens. C'est un peu compliqué, non? Ça devait certainement être plus parlant pour les juifs de l'époque que pour nous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont 2 ou 3 moutons à la maison. Je ne pense pas. Alors maintenant, je sais que la femme Ira qui va en vacances de l'Échevêque, ils connaissent un berger, mais personnellement, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a cette profession. Hein, c'est loin de notre culture aujourd'hui. Donc si on veut bien comprendre Jésus, on va avoir à faire un petit travail de transposition, hein, de passer de cette culture qui est assez lointaine à la nôtre aujourd'hui. Mais on a un autre problème à résoudre, et c'est que face à toutes ces métaphores, en fait, il faut éviter de tomber dans 2 extrêmes. Et ça, c'est important à se rappeler quand on lit les évangiles. Quand on lit une parabole, il y aurait le danger, en fait, de se concentrer sur une seule image, de dire « Ah, ça me parle », et on oublie tout le reste, on passe à côté, en fait, de choses importantes. Et de l'autre côté, il y a le risque, en fait, de tomber dans l'allégorie. Et allégoriser, ça veut dire, en fait, chercher à interpréter chaque petit détail, donner du sens à tout. Donc on va essayer de tomber ni dans un piège ni dans l'autre, en se concentrant sur le cœur du récit. Donc en gros, qu'est-ce que dit cette parabole hein, dans les versets 1 à 6, si j'essaie de résumer un peu? C'est l'histoire d'un berger qui s'approche d'un enclos. Et cet enclos, il comporte une porte tenue par un gardien, et puis à l'intérieur de l'enclos, il y a un ensemble de brebis. Alors le berger se tient devant la porte ouverte, et il se met à parler aux brebis de l'enclos. Et de sa voix, on voit qu'il appelle toutes ses brebis, il les désigne par leur nom, l'une après l'autre. Et les brebis viennent à lui, elles sortent de l'enclos par la porte. Donc on comprend en fait qu'il y a aussi d'autres brebis dans l'enclos, qui appartiennent probablement à d'autres troupeaux. C'est sûrement plusieurs troupeaux qui étaient mélangés à l'intérieur de cet enclos. Et donc il y a des brebis qui restent, et il y a des brebis qui sortent, qui viennent avec le berger. Et ce dernier, une fois que son troupeau est réuni, marche devant ses brebis et les conduit. Ça c'est un peu... la parabole de Jésus. Et pour mieux comprendre ça, dans notre France du 21e siècle, j'ai réfléchi un peu à une illustration pour illustrer ça. Donc je vous propose d'essayer de retourner dans votre enfance, à l'époque de l'entrée en école primaire. Ça peut être plus ou moins lointain, hein, selon notre âge. Mais imaginez que c'est le jour de la rentrée des classes, vous rentrez en CP, et que vous vous retrouvez avec toute une série d'enfants dans une cour de récréation. Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà le plan Vigipirate à l'époque, mais imaginons que la cour soit bien sécurisée, on ne rentre pas là-dedans comme on veut. Et à ce moment-là, il y a un instituteur qui entre dans la cour en tenant à la main, une liste de classes. Donc il se met à faire l'appel en lisant un nom à la fois, hein, par ordre alphabétique. Jean-Joël, Valérie, Jonathan, Lovely, etc. Et donc chaque enfant qui entend son nom s'approche de l'instituteur et la classe commence à prendre forme. Et une fois que l'appel est terminé, que le maître est arrivé au bout de sa feuille, que tout le monde est là, il va les emmener, il va les conduire par la porte d'entrée de l'école jusque dans la salle de classe où il va se mettre à les enseigner. Et la première journée de CP, c'est le début d'une longue période d'apprentissage au sein de la classe. Donc comme un berger rassemble son troupeau, comme un instituteur réunit sa classe, on voit que Jésus de même, il se présente comme quelqu'un qui rassemble un groupe d'individus. Pas compliqué à suivre. Mais c'est un peu différent, parce que par sa parole, Jésus appelle à lui des êtres humains, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux. Jésus connaît chacun de ces individus personnellement, et il les appelle par leur nom. Et chacun de ces individus entend la voix de Jésus et il y répond favorablement en le suivant. Et ce faisant, Jésus petit à petit se constitue un peuple d'hommes et de femmes qui écoutent sa voix. On voit que certains de ces hommes et femmes sortent du peuple d'Israël. Jésus à l'époque s'adressait plutôt à des juifs. Mais on voit aussi plus loin en verset 16 que d'autres de ces hommes et femmes sortent des nations. Et aujourd'hui, il y a peut-être peu de gens d'origine juive parmi nous, mais nous, on est aussi des nations et on fait aussi partie du peuple de Dieu si on a écouté sa voix et qu'on l'a suivi. On voit donc qu'il y a un tri qui s'opère au sein de toute l'humanité, dont sort un nouveau peuple. C'est ce que Jésus est en train de faire. Le peuple de Dieu est composé de tous ceux qui reçoivent et gardent la parole de Jésus. Donc on a répondu à la première question, à qui Jésus donne-t-il la vie ? Jésus donne la vie à ceux qui suivent sa parole. Oui, mais maintenant, comment reçoit-on cette vie ? Et on va passer maintenant à la suite du passage au verset 7 à 10, où Jésus reste dans le même thème, mais il va développer en fait un aspect particulier. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas tout expliqué de la parabole des premiers versets. Normalement, on doit y revenir par la suite, ou alors un de ces prochains dimanches. Donc ici, il faut reconnaître que ce n'est peut-être pas évident de suivre ce que Jésus veut dire. Il a raconté sa parabole, qui parlait d'un berger, et on comprend quand même que ce berger, c'est Jésus, implicitement. Et maintenant, Jésus dit, moi, je suis la porte. Alors, ça ne semble pas très logique pour nos esprits cartésiens. Comment Jésus peut être à la fois le berger et la porte ? C'est difficile à se représenter. Hein. Et on voit, en fait, ce ne sont que des images. Et on a besoin de plusieurs images pour décrire Jésus. C'est un peu comme toutes les métaphores de l'Église dans le Nouveau Testament. Vous en connaissez certainement. L'Église est un corps, l'Église est un temple, une famille, une épouse, etc., etc. Et on voit que chaque image nous dit quelque chose de vrai au sujet de l'Église, mais aucune d'entre elles est complète. On ne peut pas en prendre une et oublier les autres. Donc c'est la même chose pour Jésus ici. On passe maintenant de l'image du berger à celle de la porte. Et le but, ce n'est pas d'essayer d'imaginer un mélange des deux, un berger en forme de porte ou le contraire. C'est juste de comprendre ce que cette image nous apprend sur Jésus. Jésus dit donc au verset 7, « Moi, je suis la porte des brebis. » Et il le répète au verset 9, « Moi, je suis la porte. » Jésus se présente donc comme une porte. Et là, je vais poser un peu des questions évidentes, mais c'est utile pour bien comprendre. Donc, à quoi sert une porte ? Une porte, ça sert à entrer et à sortir. C'est donc un lieu de passage. C'est une ouverture sur le monde extérieur. C'est aussi une protection contre ce qu'il y a derrière. Alors si on se met un peu dans la peau d'un mouton enfermé dans un enclos, c'est vrai que c'est pas très valorisant d'être comparé à des brebis dans un enclos, mais c'est ce que Jésus fait ici. Donc le mouton, lui, il ne peut pas traverser les murs, il ne peut pas escalader la barrière qui l'entoure dans cet enclos. La seule issue accessible pour lui, c'est la porte. Alors, c'est plutôt évident, mais il faut le savoir. Pour lui, le passage obligé pour entrer ou pour sortir de l'enclos, c'est cette porte. Et Jésus parle clairement de la porte. Des fois, il y a un petit mot qui a de l'importance. Et cet article ici, la porte, est important. Ce n'est pas une porte parmi d'autres. Il n'y en a qu'une. En affirmant « moi, je suis la porte », en fait, il y a deux choses que Jésus proclame haut et fort. Et ce n'est pas facile à entendre dans notre société actuelle où on relativise tout, où on pense qu'il y a plusieurs portes qui mènent à Dieu et que chacune se vaut. Jésus dit qu'il est unique, que son message est exclusif, il n'y a pas d'alternative. Et ensuite, son « moi je suis », c'est aussi une allusion au nom de l'éternel Dieu. Si vous connaissez le récit de l'Exode, dans l'Ancien Testament, quand Dieu se révèle à Moïse, autour du buisson ardent, on peut lire en Exode 3, 14, « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc « Je suis » c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé. Et Jésus, en reprenant ce nom pour lui-même, il prétend pas seulement être l'unique porte, mais prétend aussi être Dieu lui-même. Alors, c'est pas étonnant que les Juifs qui ont bien compris ça auront plus tard de fortes réactions. Donc, pour illustrer un peu, j'ai encore réfléchi à une autre image et prenons le cas d'une femme qui travaille dans un bureau à la Défense. Peut-être c'est votre situation, je ne sais pas. Je n'ai pas encore l'occasion de visiter Tours, à la Défense. On va essayer d'imaginer un peu. C'est mon histoire, donc je fais ce que je veux. Donc un jour, alors que cette femme est plongée dans ses dossiers derrière son ordinateur, Tout d'un coup, il y a la sirène d'alarme qui se déclenche. Donc, c'est l'alerte incendie. Il faut évacuer le bâtiment le plus vite possible. Qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là, cette femme? Imaginons que sur son étage, il y a une seule porte qui conduise à l'escalier de secours. C'est la seule issue. Est-ce qu'elle va d'abord aller s'enfermer dans les toilettes, histoire de se refaire une petite beauté? Elle ne peut pas sortir comme ça. Est-ce qu'elle va plutôt s'installer en salle de conférence pour suivre une formation d'urgence sur la réaction à adopter dans ces situations-là? Ou est-ce qu'elle va plutôt se dire, eh ben, ce serait l'occasion d'aller voir mon patron pour lui demander cette augmentation que je mérite tant? Dans cette situation, il n'y a qu'une seule porte qui mène au salut, à la sécurité. Ce n'est pas celle des toilettes, ce n'est pas celle de la salle de conférence ou du bureau du patron, c'est celle de l'escalier de secours. Et à ce moment précis, peu importe son apparence, ses connaissances, son argent, il lui faut passer par cette porte de secours. Et il faut le faire personnellement, il ne suffit pas de regarder les collègues qui descendent. On ne va pas la sauver elle. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire, et c'est ce que Jésus continue de nous dire encore à nous aujourd'hui, ce matin. C'est que pour obtenir la vie qu'il est venu apporter, il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est lui-même. Et que pour recevoir cette vie qu'il offre, il faut venir à lui personnellement. C'est chaque brebis qui doit franchir le seuil. Personne ne peut le faire pour vous, à votre place. Et aujourd'hui encore, la voix de Jésus retentit. Venez à moi, passez par moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'attendez pas plus longtemps pour réagir. Il vous suffit de venir à Jésus tel que vous êtes pour avoir la vie. C'est presque trop simple, hein, dans un sens. Et venir à Jésus, c'est cesser de placer votre confiance en vous-même ou en les hommes. Venir à Jésus, c'est se confier uniquement en lui pour recevoir gratuitement la vie. Et si cette invitation vous interpelle, je vous propose juste d'en reparler après le culte. Vous pouvez vous adresser au pasteur, à l'un des anciens ou à moi-même aussi. Et nous tous, nous sommes là, pas pour vous conduire à nous, mais pour vous montrer le chemin vers Jésus. C'est ça notre rôle. Parce que le passage dénonce aussi les brigands et les voleurs. Tout homme qui promet la vie sans Jésus, c'est un imposteur, c'est un arnaqueur. Jésus nous met en garde de ne pas placer notre confiance dans des hommes, mais en lui seul. Parce que si on cherche la vie ailleurs qu'en Jésus, on sera déçu, inévitablement, tôt ou tard. Mais celui qui passe par Jésus pour avoir la vie, trouvera ce dont il a vraiment besoin. Donc on a répondu à nos deux premières questions. Jésus donne la vie à son peuple. Qui est ce peuple? C'est ceux qui ont franchi la porte et qui suivent sa parole. On arrive à notre troisième et dernière question, mais en quoi consiste la vie que Jésus donne? Qu'est-ce que Jésus promet au juste dans ces versets? Alors, on va relire ensemble les promesses de Jésus au verset 9 et 10. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Et un peu plus loin, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Alors pour nous tous qui avons déjà entendu la vie de Jésus, la voix de Jésus, et nous tous qui sommes venus à lui, qui sommes chrétiens, il y a là des magnifiques promesses et des grands encouragements quand on y réfléchit bien. Qu'est-ce que Jésus promet à ses brebis? Il leur promet d'abord le salut. Il dit « Nous serons sauvés ». Jésus promet ensuite la nourriture. Nous trouverons de quoi nous nourrir. Et en bref, il promet la vie abondante. Nous aurons la vie, nous l'aurons en abondance. Alors si on veut vraiment comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, il faut faire un petit détour par l'Ancien Testament. Et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails ce matin, mais peut-être que d'autres ils reviendront les dimanches prochains. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, en fait, on retrouve ce grand thème du berger et des brebis. Et si je vous résume un peu le chapitre, hein, vous pouvez lire à la maison si ça vous intéresse cette semaine, c'est une prophétie qui est en fait un jugement contre des mauvais bergers. Et ces mauvais bergers, en fait, ils désignent les chefs d'Israël, hein, les autorités. Et Dieu reproche à ces mauvais bergers, en fait, de ne pas avoir pris soin de son troupeau. Et le troupeau, ça désigne le peuple d'Israël. En fait. Donc les chefs, c'est les bergers. Le peuple, c'est les membres du troupeau. En effet, les mauvais bergers ont maltraité, ils ont exploité, ils ont négligé les brebis que Dieu leur avait confiées. Et par conséquent, Dieu promet de retirer son peuple d'entre les mains de ces mauvais chefs. Bref, il les vire tous. Et pour les remplacer, Dieu s'engage à s'occuper lui-même de ses brebis. Alors dans Ézéchiel, quand on lit ce texte, l'identité du bon berger elle est encore un peu floue. Parce que d'un côté, on dit que c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de ses brebis, et de l'autre, on parle du fils de David, alors on dit, bon. Mais on voit le bon berger qui, lui, saura vraiment prendre parfaitement soin de tout le troupeau et qui va s'en occuper avec amour. Alors pourquoi je fais ce détour? C'est juste pour vous montrer que cette prophétie d'Ézéchiel, elle s'accomplit en Jésus, qui est le bon berger, à la fois Dieu et homme. À la venue de Jésus, en fait, la prophétie est assez claire et on comprend. Jésus-Christ, il est en train de réaliser pour son peuple ce que Dieu avait prédit de faire, avait promis de faire des siècles plus tôt. Et donc, la vie que Jésus apporte, en fait, il résume un peu tout ce que ce bon berger est censé faire. Si on avait le temps, il faudrait lire un peu dans Ézéchiel 34 le rôle du bon berger. C'est vraiment encourageant de se dire que Dieu fait ça pour nous en Christ. Alors, ça n'a rien à voir, mais... Je ne sais pas si vous avez déjà remercié Dieu pour votre porte d'entrée de votre appartement, si vous habitez en appartement. Mais nous, ça fait bientôt en fait 2 mois qu'on habite au 8e étage d'un immeuble en plein centre-ville de Colombes. On est tout près de la gare avec la rue Marchande. Et moi, j'ai appris à remercier Dieu pour notre solide porte d'entrée. C'est vrai que la nuit, on peut dormir en sécurité. Même s'il y a des gens louches qui rôdent peut-être dehors, nous, on est tranquille. Et le jour, on peut facilement sortir faire les courses. Il y a Monoprix, Carrefour City, tout ce qu'on veut juste à côté. Et c'est vrai qu'à force de passer par la même porte tous les jours, on pourrait peut-être oublier ses bienfaits. Après, ça devient un réflexe, hein, on n'en pense plus. On pourrait peut-être prendre pour acquis le fait d'être en sécurité chez nous et le fait d'avoir des provisions aussi. Ou au contraire, on pourrait peut-être commencer à nous faire du souci pour ces choses. On pourrait s'inquiéter de la criminalité, de la crise économique, et se dire que voilà, jusqu'à quand on pourra profiter de tout ça. Mais il y a encore mieux que notre porte d'entrée est la vôtre. Et c'est la porte des brebis, c'est Jésus. Parce qu'à travers Jésus, on a accès à tellement de bénédictions. La liste n'est pas exhaustive hein, dans ce texte. La vie... Le salut, la sécurité. Et en tant que chrétien, on a besoin de nous rappeler 3 choses, encore et encore. Premièrement, c'est que toutes les bénédictions de Dieu, elles se trouvent uniquement en Jésus-Christ. C'est comme au jour de notre conversion, nous devons passer et repasser par Christ. Et cette vérité, elle devrait être toujours présente dans nos pensées, dans nos prières. Et je crois qu'elle était vraiment présente dans les chants ce matin. Merci Trevor. Mais on doit se rappeler qu'en Christ, on a tout, et que sans Christ, on n'a rien. Et que c'est pour ça qu'on doit rester centré sur Jésus, à la fois individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Deuxièmement, avec le temps, on pourrait aussi prendre toutes ces bénédictions pour acquises. On pourrait se dire que, bon, voilà, on s'y habitue, on profite de tout ça et on n'y pense plus. Mais au lieu de cela... Je pense que ce passage nous invite à continuer à remercier notre Dieu qui nous les donne jour après jour. C'est un ami qui me rappelait récemment que tout ce que nous méritons devant Dieu, c'est l'enfer. Alors, c'est un peu dur comme affirmation, mais cet ami m'invitait à cultiver la reconnaissance, à apprendre ce réflexe quotidien de louer Dieu pour tous les bienfaits qu'il déverse sur nous jour après jour. Pas devenir des ingrats et des blasés. Enfin, troisièmement, face aux circonstances, c'est vrai que nous pourrions entretenir des inquiétudes. Personnellement, je dois vous avouer que j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine parce que, en ce moment, je lutte contre ces inquiétudes. Mais Jésus nous invite, plutôt que de regarder aux circonstances, à nous souvenir des promesses de Dieu. C'est vrai que la vie que Jésus nous donne ici-bas, elle ne correspond pas à l'idéal de bonheur du monde, à ce qu'on nous vante à la télé, à la publicité. Jésus ne nous promet pas d'être riche, beau et célèbre et que tout m'aille bien. Mais il dit plutôt ailleurs, dans Jean, chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il faut bien voir que connaître Dieu ici, ce n'est pas juste un savoir théorique, ce n'est pas « bon, je pense qu'il y a un Dieu qui existe », mais c'est vraiment une relation réelle et intime, c'est une communion avec lui, notre Créateur. Et j'hésitais à vous donner un petit mot de témoignage ici, parce que le but du prédicateur, ce n'est pas de parler de lui, mais je pense que c'est quand même pertinent et pour vous montrer comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Et peut-être que vous savez que ces dernières semaines, j'ai été passablement brisé. Et dans mes prières, peut-être j'aurais voulu demander à Dieu, et j'ai sûrement fait, mais avec respect. Si c'était ça la vie abondante qu'il était en train de me donner, si c'était comme ça qu'il prenait soin de moi, même si je suis atteint dans ma santé physique et mentale, même si ça dure, alors qu'on aimerait aller mieux, plus vite, même si ma belle voiture, elle est de nouveau économiquement irréparable, c'est déjà le cas l'année dernière, même si mon église d'envoi a explosé, que mon pasteur a arrêté le ministère, et je pourrais allonger la liste, hein, comme ça vous pourriez vous apitoyer avec moi-même sur mon pauvre sort. Mais au lieu de ça, je veux témoigner que Dieu utilise ces épreuves pour me rapprocher de lui. Peut-être que grâce à tout ça, cette notion abstraite du bon berger est devenue plus concrète, plus réelle dans ma vie. Peut-être que j'apprends de mieux en mieux à connaître Dieu en tant que personne. Pas juste à savoir plein de choses sur lui, parce que je sais plein de choses. Je connais plein de versets par cœur, mais au cœur de l'épreuve, on doit apprendre à méditer ces choses, à nous les approprier, à les vivre. Et peut-être même que c'est une grâce que Dieu m'enseigne à compter sur lui seul, à dépendre de lui, et à me détacher de tous ces appuis humains sur lesquels je me reposais à tort. Hein, une église d'envoi en Suisse qui a les moyens, une belle voiture où je suis en sécurité, et moi-même je peux compter sur mes forces parce que je suis en pleine forme. Et tôt ou tard, ces appuis s'effondrent et il n'y a que Dieu qui reste. Et peut-être même, et je le dis humblement, que je n'ai pas encore tout à fait compris ce qu'est la vie que Jésus nous donne. Et malgré tout, je sais qu'il continue à me la donner toujours plus. Hein, c'est pas très flatteur d'être comparé à une brebis, mais on sait qu'on peut faire confiance au bon berger. Et je veux dire, gloire à Dieu pour ça. Alors en conclusion, j'aimerais qu'on puisse se rappeler ensemble que Jésus seul donne la vie à son peuple. À qui Jésus donne-t-il la vie? À tous celles et ceux qui lui appartiennent. À ceux qui sont venus à lui et qui suivent sa parole avec persévérance. Est-ce que vous faites partie de son peuple? Comment Jésus donne-t-il la vie? Et cette vie, elle s'obtient uniquement en passant par lui. Jésus, c'est la seule porte qui mène à la vie. Est-ce que vous en avez déjà franchi le seuil? En quoi consiste la vie que Jésus donne? Et c'est une vie abondante où Jésus prend parfaitement soin de tous nos besoins. Il nous invite à lui faire confiance parce qu'il est notre bon berger. Pour terminer, je vous invite simplement à écouter et à méditer ensemble le psaume 23, qui nous parle aussi de Jésus, le bon berger que Dieu a envoyé pour prendre soin de son peuple. Je vous lis le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Que le Seigneur bénisse sa parole et chacun de vous. Amen.
Nous allons répondre à cet enseignement, à cette proclamation de la parole, en chantant.